Si on a appris quelque chose de la COVID-19, c'est qu'une petite chose peut se propager rapidement. Et si on est plusieurs à se faire vacciner, on peut créer une vague. Une vague de Canadiens qui font leur part pour retrouver les gens et les lieux qu'on aime. On peut tous aider en se faisant vacciner. Apprenez-en plus au canada.ca/vaccin-covid. Un message du gouvernement du Canada.
Hey, bonsoir, c'est KUT 90.3 FM. Je suis Ramon Vitesse, voici Piraté Libre.
Cette chose qui se concentre à disparaître, les humains roses derniers survivants de la fête. Mais la serveuse concentrée dans une revue où les femmes font les statues dans des courbes incongrues.
Et le Franklin ont contaminé les esprits. On le croyait disparu à jamais, l'amour sacré de la patrie. Mais voilà qu'à la faveur de l'ombre, il est en train de renaître. Les entendez vous de sous leur tombe, les cris de joie de nos ancêtres. Les rigodons et les sept carrés, qui étaient l'objet de mépris, détrônent ces rythmes étrangers qui nous avaient envahis. L'auréole qu'on avait arrachée aux vieux héros de chez nous, sans nous attendre et restituer à Duplessis et aux chanoines gros. C'est le retour de Séraphin Poudrier et de Menon Maître Draveur. On remet de l'eau dans les bénitiers et à l'antenne le jour du Seigneur. Le fruit est mûr, il était plus que temps que s'accomplisse la révolution conservatrice. c'est le retour salvateur de nos valeurs fondatrices, la révolution conservatrice. On en veut à l'appel des décrucifiés, des croix et des crimes et des Jésus-Christ. Dans nos parlements, nos hospices, c'est la révolution conservatrice. Et la tourtière reviennent en force au menu, où le halal et le cachère avaient sournoise rempli le dessus. Voici le violon de Tiblan Richard et les histoires du père Gédéon. On ne confinera plus au placard nos cinq fléchés et nos accordéons. Qu'il est beau de voir nos enfants qui errent encore se droguer, tourner le dos aux stupéfiants pour réciter pieusement le chapelet. C'est la chute irréversible de la modernité corruptrice, la révolution conservatrice. Oui, notre âme est restaurée jusque dans ses moindres interstices, la révolution conservatrice. On en veut à la belle des crucifix, des croix et des crucs et des Jésus-Christ. Dans nos parlements, nos hospices, dans nos postes de police, c'est la révolution conservatrice. La révolution conservatrice, la révolution conservatrice.
Veillez plus que jamais sur votre peuple, mon mari. Rendez-les vigilants dans la lutte qui n'a jamais de cesse pour lui. Gardez nos familles nombreuses, unies au pied du crucifix et de votre statue, serrées autour du plancher paroissial, groupées sous la houlette de nos évêques et soumises aux directives du vicaire de Jésus-Christ. Que chaque foyer de chez nous soit un bastion inaccessible aux assauts d'une propagande païenne, étrangère à nos mœurs et à notre foi. Ainsi soit-il.
Travailler, ça le rendait malade, l'idée d'aller puncher. Un jour, il était convoqué au bureau de l'aide sociale pour parler des retours possibles sur le marché du travail. Il a dit, madame, j'ai pas le temps pour vos niaiseries. Je fais la musique le soir et je dors toujours jusqu'à midi. Ça travaille fort, tout ce monde-là. Ça travaille fort, tout le temps, tout le temps.
Eh ben ouais, on vient d'entendre de Henri Ben sur un album qui s'intitule « Ça travaille fort ». Eh bien, c'était la pièce éponyme. Le travail, c'est une vertu cardinale. C'est peut-être le fondement de notre société, la production pour la vente, c'est ça le capitalisme. On a joué aussi pour vous, mon oncle Serge, tiré de son album « La révolution conservatrice ». Et c'était la pièce éponyme également. Cette révolution conservatrice, nous sommes en plein, les deux pieds à tremper dedans, à patauger. On a commencé le tout avec un poète méconnu au Québec, un poète qui fait beaucoup de production de disques et qui fait très peu de disques lui-même. J'ai nommé Yves Desrosiers. C'est sur son album « Bordel de tête », la pièce « Les éclopés ». Très bel album, les photos aussi de cette espèce de nowhere, de cette espèce de monde en cul-de-sac, se retrouvent aussi comme dans sa chanson aussi « Les éclopés ». Vous syntonisez toujours le 90.3 FM CKUT Montréal de tout partout. Alors voilà, j'ai aujourd'hui des bandes dessinées qui interrogent la mémoire. La mémoire, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que, puis la mémoire, mais aussi la culture et les arts. On va le voir d'ailleurs avec ce premier album, L'Arbre Nu. C'est un chef-d'œuvre donc de la littérature coréenne qui est ici transposé en BD chez l'éditeur Les Arènes par Keum Suk Jandri Kim. Et ce livre a été écrit par, en fait, le roman original est de Park Wan Seo. Et ce livre se trouve entièrement en noir et blanc, sauf quelques toiles d'un peintre, le peintre qui se nomme, en fait, on l'appelle OK dans ce livre. Et ce peintre, dans le fond, qui est condamné pendant la guerre de Corée, une guerre qui a duré une trentaine d'années, une guerre larvée entre les deux Corées, à travers laquelle s'affrontaient les grandes puissances. C'est une forme de guerre froide, donc les États-Unis et la Russie qui s'interpellaient mutuellement à travers donc cette guerre. Ici, on est avec une jeune fille qui a perdu ses deux frères, qui était cachée, qui était cantonnée dans un pavillon derrière la petite maison familiale et qui, lors d'un bombardement, a explosé, jetant en l'air donc les corps des deux frères. La mère est restée littéralement sidérée par cet événement-là et sa fille a été obligée donc de la faire vivre en acceptant de travailler dans un petit kiosque finalement au marché où les GI étaient stationnés, les soldats américains, et leur spécialité étant avec deux, trois peintres de dessiner des fiancés sur des foulards de soie afin qu'ils puissent les envoyer au pays, leur dire « je t'aime, je t'aime ». Alors voilà
très pathétique pour un artiste, pour un peintre, que de faire des portraits de commande. Ki-young, qui, elle, a 20 ans, qui habite Séoul, donc avec sa mère, pour survivre donc à la mort de ses frères, de son père, se trouve donc dans une espèce de dilemme. Entre autres, son amour pour ce nouveau peintre, et aussi pour un homme qui semble épris d'elle et qui serait prêt à tout pour elle. Alors voilà, cet homme, malheureusement, ce peintre est marié et elle va devoir faire l'impasse sur cette idylle. Rêver, bien sûr. Alors voilà, c'est du noir et blanc absolument magnifique. On est avec des feuilles de Ginkgo biloba, on est avec des arbres, dont l'arbre nu qui donne son titre et à un tableau du fameux peintre dans le roman, et aussi à ces arbres donc dénudés avec l'hiver. C'est un roman qui met en lumière finalement la dureté de la vie pour les civils en temps de guerre. D'une part, les déplacements, d'une part, l'art de survivre, si on peut dire, mais aussi l'art tout court. Très, très beau livre que L'arbre nu de Kum Suk Jendri Kim, publié chez Les Arènes BD. Un roman graphique qui est augmenté de mots de l'auteur à la toute fin, de photos d'archives, en noir et blanc bien sûr, et aussi d'un texte de Pascal Daïez-Burgeon, sur la guerre de Corée, mythe et réalité, et les dessins, toujours en noir et blanc, un très beau noir et blanc de cette autrice, illustre le dossier. Allons encore, bon, donc l'art ici, c'était le dessin. Ici, l'art dans ce livre, L'accident de chasse, publié chez les éditions Sonatine, une brique de quasiment 450 pages en noir et blanc, et cette fois-ci avec du hachuré à mort. On est dans une bande dessinée américaine, traduite enfin en français, qui a reçu pour 2021 le Fauve d'or du meilleur album d'Angoulême. Et aussi... lauréat du Quai des Bulles 2020, donc le prix Ouest-France Quai des Bulles. Alors, ce livre-là, qui semble dessiné de façon peut-être un peu ardue à l'occasion, en est pas moins un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que on convie une œuvre littéraire majeure, celle de Dante. Dante qui nous parle des enfers. On est à Chicago en 1959. Charlie Rizzo, un jeune Italien, croit tout connaître de son père qui est aveugle, jusqu'au jour où la police frappe à leur porte. Alors voilà, Matt, le père, choisit donc de dévoiler la vérité à son fils. La vérité, on s'aperçoit qu'elle prend différentes formes. Le père a fait de la prison anciennement, supposément qu'il était aveugle à cause d'un accident de chasse alors qu'il était gamin, qui avait joué avec un fusil. Pas du tout. C'est une histoire de vol de banque. Alors voilà, laisse béton, je démystifie. Et ce livre, En prison, va être aussi une espèce de révélation. Monter les différents paliers de l'enfer. Et le garçon, tel le père, va aussi avoir un chemin de croix assez complexe et ardu. C'est un livre sur la philosophie, sur l'importance de la vie, malgré tout, alors que tout semble compromis, tout semble dans un cul-de-sac. C'est un livre absolument inouï, un livre avec une mise en page étonnante. C'est un livre de format carré de la grosseur d'un dictionnaire. Donc, L'accident de chasse, un livre à lire à tout prix aux éditions Sonatine par David L. Carlson et Landis, L-A-N-D-I-S, Blair, B-L-A-I-R. Dans les trucs de mensonges, ou en tout cas de silence, il y aurait aussi ce livre, Lisa et Mohamed, une étudiante, un harki, un secret, trois petits points. C'est publié chez Futuropolis par Julien Frey, F-R-E-Y au dessin, et c'est le témoignage, c'est l'histoire, en fait, de Mayalène Gouste, qui est guadeloupéenne, qui va travailler pour un vieux monsieur qui s'ennuie, qui n'a plus sa femme et qui semble mortellement l'ignorer. Alors voilà que cette jeune femme qui accepte cette offre d'emploi inusitée de tenir compagnie et de faire à l'occasion la cuisine à un vieux monsieur va se retrouver à trouver dans le secrétaire qui est dans la chambre qu'elle occupe, collé dessous, des cassettes donc d'un livre que sa femme, désormais décédée, avait décidé de faire avec lui de façon à faire émerger son passé de harki. Toute cette espèce de période trouble en Algérie où ceux qui ont collaboré ont trouvé finalement n'étaient pas nécessairement des collaborateurs. En réalité, cette histoire est autrement plus complexe et c'est cette histoire que revisitent Lisa et Mohamed avec des dessins et avec une clarté, avec des silences, avec aussi des coups de théâtre dans le retour d'un cousin qui lui avait choisi le FLN tandis que l'autre, Mohamed, avait choisi de collaborer dans la mesure où il survivait et que, dans le cas de certains villages, il avait même décidé d'envoyer des jeunes au FLN et d'envoyer des jeunes comme harki de façon à se protéger des deux factions chien et chat, noir et blanche. Alors voilà, c'est un livre donc sur un déchirement interne de l'Algérie, de ses familles, de ses villages. Lisa et Mohamed de Julien Frey et Mayalène Gouste, publié chez Futuropolis. Tant qu'à parler d'histoire, peut-être parler aussi de cette histoire aussi liée à la littérature, qui est celle de Bram Stoker, celle des vampires. Le livre s'intitule « Ne reste que l'aube ». C'est publié chez Futuropolis par un auteur que j'affectionne beaucoup, Thierry Murat, M-U-R-A-T. Alors donc, à l'heure blanche et éphémère de tous les matins des hommes, le repos de l'homme n'est qu'une chimère pleine de contre-coups. Le bruissement du temps se rétrécit. Les siècles succèdent aux siècles. C'est l'histoire donc d'un artiste majeur qui a peut-être quelques années derrière la cravate comme vampire, qui va se trouver à rencontrer un étudiant en art qui le prend d'affection. Toutefois, on est dans un livre en même temps futuriste. On est à une époque lointaine de science-fiction où Internet, où le virtuel des robots assistent donc cet artiste peintre qui fait des fresques monumentales. Il va se faire pirater par une femme qui décide de se faire mordre par lui en l'amenant dans un traquenard, finalement, de façon à devenir elle-même vampire et pouvoir, bref, un drôle de livre et un livre, finalement, qui entrechoque un passé extrêmement lointain, médiéval s'il l'est, et une science-fiction prochaine, lointaine si elle l'est. Voilà, « Ne reste que l'aube » de Thierry Murat chez Futuropolis, un livre en noir et blanc avec un soupçon de gris en termes de bichromie. Alors, ben, on va swinguer, on va entendre Panache sur nos ondes rebelles.
Centimètres carrés d'épiderme. poussent dans nos jardins de laine. Un petit jeu mécanique pour éviter la thérapie, une thérapie mécanique pratiquée aux dépens d'autrui, un chapelet de tragédie à gommer par des regards de ciel. Une thérapie mécanique pratiquée aux dépens d'autrui, un chapelet de tragédie à gommer par les regards de ciel. Un petit jeu mécanique pour éviter la thérapie. Une thérapie mécanique pratiquée aux dépens d'autrui, un chapelet de tragédie à gommer par les regards de ciel. Un petit jeu mécanique pour éviter la thérapie. Une thérapie mécanique pratiquée aux dépens d'autrui, un chapelet de tragédie à gommer par les regards.
Anonymous tiré d'un tout dernier album. Anonymous, c'est quoi? C'est une aventure d'une vingtaine d'années facile. La Bestia, le dernier album, donc majoritairement en espagnol cette fois-ci. Violencia versus violence. Pourquoi? Ben, parce que qu'on emploie le mot violence en espagnol ou violence en français, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Dépendant si on a subi la colonisation ou on subit le racisme, etc., etc. Et on le sait, quand on est une femme, ça serait encore pire. On lit encore le livre sur le terrorisme féminin qui est paru récemment, ce petit essai, et il est question notamment d'une femme qui a décidé de venger carrément, de faire justice aux femmes qui sont violées, tuées et abandonnées en toute légitimité ou presque par des chauffeurs d'autobus qui transportent ces femmes la nuit dans les maquiladoras, dans des zones franche finalement pour fabriquer des biens destinés au capitalisme. Et cette femme a décidé devant l'inefficacité quasiment congénitale de la justice patriarcale de procéder, dans le fond, afin que les fameux chauffeurs d'autobus ne puissent pas donc cavaler en toute liberté, pouvoir dire bonjour comme ça sans rien d'autre. Alors voilà, c'était Anonymous. On a joué aussi pour vous Patrick et les Brutes, tiré de Toutes les filles sont folles de moi, évidemment. Il s'agit d'une blague ridicule. Quant à Panache, avec lequel nous avons commencé, c'est sur l'ancienne étiquette Grosse Boîte. C'est un album éponyme. Ça s'appelle Panache comme le nom du groupe. Et c'était la pièce Poisson au pluriel. Quelques autres bandes dessinées pour parachever ce portrait récent d'art et de mémoire. Alors voilà, le chanteur perdu. Oui, c'est publié dans la collection Air Libre chez l'éditeur Dupuis par le solide Didier Tronchet, qui dessine comme avec une machette. C'est pas étonnant, donc, qu'il a vécu à Quito. Ici, Didier Tronchet va aussi aller à l'étranger rejoindre ce chanteur de charme, d'une certaine façon, 30 ans après des chansons, donc, étranges, avec une puissance du hasard. Ce chanteur-là, un chanteur de type français, marqué par les années 70, n'avait pas eu un grand succès. Ses disques sont disparus et Didier Tronchet a fait un travail de mémoire, non seulement pour exhumer des textes mémorables, des textes, eux, immuables, si le genre, la musique, elles, ont un peu vieilli, ça n'empêche absolument rien que ces chansons-là ont suivi Didier Tronchet toute sa vie. Notamment, illustre-t-il, dans une séparation mémorable dans sa vie. Alors, il va remonter un peu, tel un détective, la trace de ce chanteur à travers sa sœur, qui est toujours en France, et son fils qui y réside toujours. Et il va décider, au fil de ses découvertes, d'aller sur place, donc tenter sa chance de trouver l'endroit exact où vit ce chanteur perdu. Et il va l'exhumer, il va aller de surprise en surprise. Évidemment, il préjugeait, il stéréotypait certaines postures de son chanteur et il a vite déchanté en le voyant comme un gros nigaud qui règne comme un néo-colonisateur. Eh bien, mal lui en prend, il va devoir reviser ses jugements. Très beau livre, toujours cet aspect humain, cet aspect iconoclaste aussi à reconnaître ses erreurs qu'a l'auteur Didier Tronchet avec son dessin attachant, un dessin grossier et aussi un dossier à la fin de l'album et un lien avec son site internet. Puisqu'il a aussi écrit un roman et il a aussi fait une chanson avec ce chanteur perdu qu'il a retrouvé. Le chanteur perdu, publié chez Dupuis par un auteur majeur de notre époque, Didier Tronchet. Toujours en musique et en mémoire, Leonard Cohen sur un fil. Évidemment, Leonard Cohen, ici, dans cet album publié chez l'éditeur Casterman par le Québécois Philippe Girard, parle de la mort. Parce que Philippe Girard, comme auteur, est obnubilé par la question de la mort. Leonard Cohen était un peu, en fait, beaucoup mélancolique et hanté, et a survécu à différentes, avatars de sa vie, notamment de se faire voler littéralement une chanson, mais aussi des revenus. Et ce qui a fait qu'il a dû recommencer à faire des tours de chant, refaire des spectacles âgé de quelque chose, je crois, comme, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 80 ans. Et Philippe Girard l'a vu de passage comme ça au Québec, puisque c'est un Canadien international qui a connu aussi, on l'apprend si on ne le savait pas avec Philippe Girard, qui a connu Lou Reed, qui a connu John Cale, qui a connu Janis Joplin, etc. Ben, Nico de Velvet Underground, etc., etc. Leonard Cohen, une façon de découvrir sa biographie par un auteur québécois redoutable. Philippe Girard. Quoique, tant qu'à moi, je préfère encore ses albums sur la mort, comme Un jour de pluie qui vient de publier à la nouvelle adresse, ou encore Une fille... c'est quoi donc cet album? Enfin, il y en a publié beaucoup chez Mécanique Générale, chez Glénat Québec, etc., etc. C'est lui aussi qui avait fait Béatrice des comic strips, entre autres aux 400 coups. Donc ici, Leonard Cohen sur un fil, publié chez Casterman par Philippe Girard, de façon à tutoyer le rock'n'roll. Une autre histoire, une histoire du Velvet Underground. C'est publié chez Dargo par un auteur nommé Prosperi Burry. C'est un livre qui se trouve être en bichromie noir et rose fluo. Et oui, pour un groupe qui a traîné dans le sadomaso, qui a traîné dans l'identité sexuelle trouble, de la prostitution, mais aussi dans l'aspect new-yorkais, dans l'aspect pop art de Andy Warhol, qui leur avait imposé la fameuse chanteuse allemande Nico. Donc, une histoire qui est un peu, je dirais, une façon d'aller au fond du baril. Le Velvet Underground, comme beaucoup d'autres groupes, ne l'a pas eu facile. Et Lou Reed avait pris moult mauvaises décisions, et on le voit encore dans ce livre, dessiné un peu à la Bruno ou à la Franco-Belge ou à la Hervé Bourris, tiens. Très beau livre que ce livre qui nous permet d'entrevoir les avatars, les aléas de la vie du Velvet Underground qui a gagné ses galons vraiment avec beaucoup de difficultés. Une histoire du Velvet Underground publiée chez Dargo par Prosperi Burry, B-U-R-I. On a encore de la musique. On va swinguer maintenant sur les blaireaux de Ravel. On va se transformer en voleur. Sur le 90.3 FM CKUT.
Petit cow-boy voulait partir à la guerre et éliminer tous les affreux de la surface de la terre. Il s'en prenait aux Cubains, aux Africains, aux Portoricains, aux peaux et aux drapeaux rouges. Enfin bref, à tout ce qui bouge. Le vilain petit cow-boy voulait conquérir la terre avec ses Santiacs, son lasso et sa paire de revolvers. Il bouffait des hamburgers avec les doigts pleins de beurre. Et il y avait un malaise car il devenait obèse. Après il leur faisait la peau pour montrer les bonnes manières. Il était un peu parano avec son arme nucléaire. Si tu lui tournes le dos, il te réduit en poussière. Le vilain petit cow-boy finira tout seul sur terre. Prends pour une poignée de dollars, il butera tous les connards, les Cheyennes et les Comanches qui rôdent autour de son ranch et tous ceux qui bâtissent autour de ses puits de pétrole.
C'est la mafia, c'est la mafia. être cruel. Marcel Ratafia, la madone de la mafia. Marcel Ratafia, la madone de la mafia.
AUT 90.3 FM.
C'est la même lourdeur, ça sera la même durée, 9 mois, quand pour sa sœur. Mais cet enfant qui bouge, cet enfant qui grandit, cet enfant que tu couvres, partira loin d'ici. Même si tu le nourris, que tu sens son cœur qui bat, ce n'est pas ton enfant, il ne t'appartient pas. Ce n'est pas si terrible, c'est pas si mal que ça. Ces 9 mois de travail, c'est ce que dit le contrat. Et pourtant, par moment, tu aimerais être celle qui lui donnera son nom. Vous êtes 80 dans la même maison, attendre des bébés que d'autres requérants. Que le temps s'éternise quand il n'avance pas. Tu penses que tu feras avec l'argent du contrat. Une maison sûrement, une vache ou un vélo, un petit commerce, l'école des enfants. Ce sera une nouvelle vie sous un nouveau toit.
ce 9 mois se rend alors très loin derrière toi. Et pourtant, par moment, tu aimerais être celle qui lui donnera son nom.
C'était donc un quatuor de pièces, dans le fond, de folk explosif sur l'émission Pirates et Libres. On a entendu donc alternativement Paul Cunégis du Québec sur son tout nouvel album Yalla. C'était la pièce sans nom. On a joué aussi pour vous de France Regis Gratoons, les Négresses Vertes, les Blaireaux de Ravel. Je vous rappelle, pour ceux qui s'intéressent à la bande dessinée et aussi à la médiation culturelle et à l'anarchie en général, que j'ai désormais un WordPress qui s'appelle tout simplement Ramon Vitesse, exactement comme ça se prononce, R-A-M-O-N-V-I-T-E-S-S-E, et j'y publie au moins une fois par semaine. Et il y a un lien aussi pour l'émission ici à CKUT, Pirates et Libres, sur le 90.3 FM. Nous continuons sans plus tarder cette émission avec de l'eau dans la cale. Essai sur la relativité d'être bien. Hey,
c'est qui sait quand est-ce que t'as plus rien? C'est quand tu trouves de quoi faire demain. Tes conditions sont froides, curriculum vital, voire une ambition. Comment tu crois que t'y arriveras? Tes tensions se triplent, placebo multiple, voir une solution. Tu consommes comme produit. C'est con quand c'est ce que c'est à prix réduit. Tes valeurs profondes, un bon film de fiction,
National Sound is calling. The Suwanee Perry Popolo Music Festival is back and online with free jazz, noise, punk, new music, spoken word, electronic, avant-rock, sound art, and dance parties. Over 60 artists performing from Montreal, Chicago, Philadelphia, Sioux Lookout, Toronto, Mexico City, Brussels, Berlin, Tehran, Kampala, and Nairobi. Heed the call between June 3rd and 21st at suwanneeperrypopolo.org.
Bonsoir tout le monde, c'est Alex qui vous parle. Vous êtes sur les ondes de CKUT à l'émission Café. Il est 18h et nous sommes vendredi le 23 avril. J'espère que vous avez passé une belle semaine et ce, malgré la neige tardive et les mauvaises nouvelles covidiennes qui ne